Parce que c'est la raison d'être de la basilique que vous ne voyez pas tout à fait parce qu'il fait nuit, mais de cette basilique qui a été construite, puisque la basilique a été construite il y a plus d'un siècle pour prier pour les défunts. Prier pour tous ceux qui ont quitté cette vie terrestre. Alors peut-être que à votre âge, vous vous dites cette préoccupation, ben, c'est pas pour nous, c'est pour les personnes âgées. Ou peut-être que parmi vous, il y en a qui ont perdu déjà un être cher et pour qui ça peut être un père ou une mère ou un frère, une sœur ou un grand-père, une grand-mère, je ne sais pas. Et ça peut être difficile que d'en parler. Alors je voudrais le faire sous le regard de Dieu, le regard du Dieu aimant qui nous a créés et qui ne nous a pas créés que pour cette vie terrestre, mais qui nous a créés pour une vie éternelle et en particulier nous a créés, qui nous a donné des organes, des yeux, en particulier pour le voir. Alors, je voudrais le faire en commençant d'abord, ça peut-être vous paraître un peu étrange, en vous racontant une petite histoire. Cette petite histoire, je vais vous la raconter. Il s'agit de l'histoire de deux jumeaux, deux enfants, tout petits, dans le ventre de leur mère. Vous l'avez déjà entendu ?
Non !
Alors, je vous la lis. Ceux qui la connaissent, eh bien, tant mieux. Ceux qui la connaissent pas, écoutez-y. Un jour, deux jumeaux discutent dans le ventre de leur mère. Alors, je ne vais pas accepter de vous parler pendant que je l'arrive. Comme c'est étroit ici, dit l'un d'eux, je n'arrive plus à bouger. Tu es devenu trop grand. Mais non, c'est toi qui as grandi. Tout de même, on ne va pas rester ici tout le temps. Tu as bien une idée de ce que l'on va devenir. Moi, je n'en sais rien. Tu ne crois pas qu'il y a une vie après la naissance ? Oh, je ne sais pas trop. Je ne le pense pas. C'est complètement absurde. La vie s'arrêtera quand nous sortirons de ce lieu et nous mourrons. Mais je crois que la vie continuera, moi, et que ce sera plus lumineux qu'ici. Nous avons des pieds, c'est sans doute pour marcher. Nous avons une bouche, c'est sans doute pour manger. Nous n'avons plus besoin du cordon ombilical. Mais personne n'est revenu de là-bas pour te dire cela, dit l'autre. Tu rêves. Avec la naissance, la vie se termine, et il n'y a plus rien. Même si je ne sais rien de la vie après la naissance, je pense que l'on va voir notre mère. Notre mère ? Je n'ai jamais rien remarqué d'une mère. N'as-tu jamais entendu sa voix et ses chansons ? N'as-tu jamais senti ses caresses ? Moi, je pense que l'on verra un jour, qu'on la verra un jour, et qu'elle nous prendra dans ses bras. Il me tarde de voir notre mère et de la connaître. J'ai voulu vous citer ce texte, qui est un peu connu, qui a été arrangé surtout, parce que souvent, l'objection qu'on entend chez nos contemporains, c'est de dire, comment vous, en tant que chrétien, vous pouvez affirmer qu'il y a une vie après la mort ? Parce que personne n'en est revenu. Vous entendez cette objection ? Souvent, les gens nous disent, mais en fait, qu'est-ce que vous en savez ? On voit bien qu'il y a des gens qui meurent, qui vivent, on voit bien des gens qui meurent, ça c'est l'expérience, mais qu'est-ce que l'on sait d'une vie après cette mort ? Qu'est-ce que l'on sait de l'au-delà ? Récemment, j'ai fait une émission télévisée avec un jeune de 22 ans, qui n'était pas baptisé, pas chrétien du tout, et qui était mort dans un accident de moto. Et après son accident de moto, il disait, hein, c'était son témoignage, qu'il était donc, il a été conduit d'urgence à l'hôpital, et là il a connu ce qu'on appelle une mort clinique. Et il racontait que pendant qu'il était allongé sur son lit, il a fait ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, une décorporation. C'est-à-dire qu'il est sorti de son corps. Et à ce moment-là, il a vu, dans la salle d'attente, sa mère, et même, disait-il, sa copine. Et ce qui a énormément bouleversé sa copine, c'est que quand il est revenu dans la conscience, qu'il était en fait dans le coma, il a dit à sa copine, c'est la première fois que tu donnais la main à ma mère. Il dit, ah bon, comment tu le sais ? Parce que je t'ai vu. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là ? Vous savez, il a fait l'expérience que beaucoup disent avoir fait, d'une, d'une lumière intense et d'une grande présence. Et le journaliste d'un coup se tourne vers moi, j'étais le seul prêtre, et il me dit, alors vous voyez père, il y a bien une preuve là, qu'il y a quelque chose qui existe après la mort. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Non, ce n'est pas une preuve. Ça peut être décevant, mais ce n'est pas une preuve. Sur quoi nous, en tant que chrétiens, on se base pour dire qu'il y a, et pourtant je le crois, hein, profondément, je crois bien évidemment que pour moi, ceux qu'on appelle les morts, parce qu'on n'a pas d'autre mot, ce sont des vivants dans l'invisible. Alors c'est vrai des saints et des saintes, mais c'est vrai que toutes les personnes humaines sont des vivants. Pourquoi je le dis? Parce que je crois que celui qui est né, qui est mort, qui a souffert, a vaincu la mort. Et toute l'Église, depuis le début, ne s'appuie que sur ça, sur le témoignage des apôtres. Nous n'avons pas, à moins qu'il y en ait parmi vous qui l'aient lu, et c'est une grâce exceptionnelle, mais moi, pourtant ça fait 20 ans que je suis prêtre, je n'ai jamais eu une apparition, comme je vous vois là devant moi, d'une âme d'un défunt, y compris du Christ. Et pourtant, je lui ai donné ma vie. Vous voyez, c'est très important cela. Sur quoi on se base pour parler? C'est très important dans le dialogue que vous aurez avec le monde d'aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas dire... Il ne faut pas prendre par exemple cette expérience de ce jeune homme. Et je peux vous dire qu'en voyant ce jeune homme, il était donc maintenant vivant. Il a été sauvé. Après, c'était 2 mois, je crois, de coma. Il me disait, à l'antenne, hein, il disait ça au... Je ne sais pas s'il y a un Dieu, mais ce que je sais, c'est que je sais pourquoi je vis. Je sais pourquoi je vis. Et je pense que tous les humains, nous cherchons à savoir pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes là. Nous cherchons pourquoi, d'où nous venons, nous cherchons qui nous sommes, mais nous cherchons à savoir aussi pourquoi nous vivons. Et en fait, c'est la question, c'est ce mot que je voulais écrire au tableau, c'est la question du sens. On a besoin tous de savoir quel est le sens. Votre démarche de confirmation, vous la faites, je ne vous connais pas, donc, avec soit beaucoup de conviction, soit de la conviction, soit moyen conviction. Et peu importe, vous êtes là. Et ce qui est très important pour vous, c'est la raison pour laquelle vous avez des catéchistes autour de vous, c'est qu'ils veulent vous donner, non pas ils ne vont pas vous forcer à faire quelque chose, mais ils veulent vous donner du sens. Et toute la vie des hommes, qui que nous soyons, hein, tous les humains cherchent un sens. Mais dans le sens en français, il y a au moins 3 acceptions de ce terme. Quand on dit quel est le sens de ma vie, c'est quel est le but. Vous êtes d'accord? Dans quel sens il faut aller pour aller à Montlignon quand j'habite à Versailles? On va vous donner la direction, le but. Il faut aller par là. Vous allez prendre par là, par là. C'est ça le premier sens du mot sens. Mais quand on dit je cherche du sens, je ne sais pas simplement quel est le but de ma vie, vers quoi je vais, mais c'est aussi quelle est la signification. Le sens, c'est aussi quelle est la signification. Comment? C'est très important de faire la différence. Il y a le but qui est la finalité, mais dans le mot sens, il y a aussi la signification. Vous savez qu'il y a un grand poète qui n'est pas chrétien, qui s'appelle Malraux, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un littéraire, qui a dit que l'homme est né quand devant un cadavre, il s'est posé la question « Pourquoi ?» Les animaux ne se posent pas la question de la mort de leurs proches. Ils meurent. Mais nous, les humains, la différence, et c'est pour ça que les premiers signes, ce qu'on appelle les premiers critères d'hominisation, les premiers signes de l'être humain sur la Terre, c'est quoi? C'est les rites funéraires. Vous savez, les pyramides. Vous savez, les peintures dans les grottes, quand on, en Égypte en particulier, quand on représentait les défunts. Parce qu'on cherche le sens, la signification. On cherche, mais pourquoi meurt-il? Et puis il y a un troisième sens du mot sens, c'est quoi d'après vous? Le but, la finalité, la signification. Vous voyez, le but, ça répond à la question pour, en 2 mots, pourquoi? Pourquoi je meurs? Pourquoi je vis? Alors que la signification, ça répond à un seul mot, le pourquoi. Mais pourquoi tout ça? Récemment, j'ai accompagné une jeune femme qui a perdu son mari alors qu'elle avait 3 petits-enfants. Et toute sa lettre, il y avait le mot « pourquoi » en capital. Mais pourquoi? On s'aimait tant. Pourquoi? 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 Et l'être humain cherche le pourquoi de cette vie. Et vous, j'aimerais que, dans votre retraite à Montlignon, vous vous posiez cette question. Mais en fait, c'est vrai, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans une famille? Pourquoi, par exemple, si vous êtes en bonne santé, je suis en bonne santé? Pourquoi? Il faut se poser ces questions-là. Il ne faut pas enfouir ces questions-là. C'est des questions importantes. Et puis enfin, c'est quoi le dernier sens du mot sens? Ben oui, les 5 sens. C'est les sensations. Et en particulier, c'est oublier qu'on est des humains et qu'un humain, ce n'est pas une intelligence qui réfléchit. Il a aussi des yeux, il a un goût, il a un toucher. Et ça fait partie du mot sens. Alors pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour faire de l'érudition. C'est simplement pour vous dire que dans la question du sens, cette question, elle est typiquement humaine. Eh bien, le Christ, en se faisant homme, Dieu qui s'est fait homme, vient donner, vous savez que pour nous, le Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Verbe, il est celui qui donne sens en se faisant homme. Et nous, en tant que chrétiens, qui portons le nom du Christ, bien, nous sommes porteurs de ce sens que le Seigneur est venu donner à notre vie. Et en particulier, il nous dit pourquoi nous sommes nés. Vous voyez, un peu comme les jumeaux dans le ventre de leur mère, il y en a un qui dit, moi je comprends pas. Et leur épouse se posait la question, mais en fait, pourquoi j'ai des mains dans le ventre de ma mère? Pourquoi j'ai des pieds? Pourquoi j'ai des yeux? Ça n'a rien fait de lui. Pourquoi j'ai des mains? Ça n'a rien. Dans le ventre de ma mère, j'ai tout. J'ai allocation sans logement, sans loyer. J'ai nourriture à gogo, pas de problème. C'est après que viennent les problèmes, c'est quand on commence. Et de fait, quand l'enfant naît, quand il sort, il crie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu vos parents parler d'un accouchement, mais c'est ça. Parce que tout d'un coup, il va comprendre qu'il entre dans un autre monde. Et nous-mêmes, sur Terre, eh bien, nous préparons, à travers les actes que nous posons, cette éternité, c'est-à-dire cette naissance après notre mort. Dans l'Église, la mort est une naissance. Mourir pour nous, ce n'est pas tomber dans le néant. Ce n'est pas nous écraser dans le néant, mais c'est entrer dans une autre vie. Et que cette autre vie, nous la préparons dès maintenant, dans l'ici-bas. Ça va, ça? Ça vous paraît clair? C'est clair, mais vous voyez, il faut y réfléchir à ça. Et que tous les actes que je pose, en particulier les actes d'amour de Dieu, dans le secret de mon cœur, de ma conscience, les actes d'amour que je pose vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ceux qui m'accompagnent, mais aussi vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que, pour nous, en tant que chrétiens, le cœur de l'Évangile, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Tout est là. D'accord? Alors, sur cette terre, nous nous préparons à la vie éternelle. Et nous savons que puisque le Christ nous a ouvert à travers sa mort et sa résurrection, bien, le ciel, les portes du ciel, nous savons que nous sommes promis à la vie éternelle. C'est-à-dire que nous savons qu'au moment de notre mort, qui est un passage, le Seigneur va nous attendre avec tous les saints et les saintes du ciel, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés et qui sont déjà morts. Ça, c'est notre foi. Seulement, je vous ai dit qu'il y a un mot important, il y a le mot sens, mais il y a un deuxième mot important, quand on réfléchit à tout cela, c'est le mot choix. Tous les jours de ma vie, je suis appelé à choisir. Et vous savez, dans le Deutéronome, dans le livre de l'Ancien Testament, il y a un moment où on te dit, je te présente 2 chemins. Il y a un chemin qui conduit vers la vie, et il y a un chemin qui conduit vers la mort. Le chemin qui conduit vers la vie, il est étroit, difficile. Le chemin qui conduit à la mort, il est spacieux et appétissant. Et dans la Bible, il est dit, c'est au Deutéronome au chapitre 30, choisis la vie. Il y a un choix à faire, chacun de nous. Et ce choix, nous ne le faisons pas une fois pour toutes. Nous avons tous les jours, et presque chaque instant, à renouveler ce choix de vie à faire. En vous, comme en moi, il y a des pulsions de mort. Et le Christ est venu vaincre par sa croix, par ses sacrements, par sa vie donnée, ces pulsions de mort qui a amené. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais essayez d'y réfléchir. Ça peut même arriver à votre âge. Vous savez, c'est mes premières larmes de prêtre ici. Quand on m'a dit au téléphone, c'est une maman, priez mon père pour mon enfant qui s'est donné la mort. Ça m'a beaucoup touché, ça fait longtemps déjà. Et cet enfant avait 7 ans. On se demande comment c'est possible. Mais vous savez bien autour de vous, il y a des jeunes. Parce que peut-être que le poids de vie est trop lourd. Mais surtout, je ne vous le dis pas pour vous faire peur, je vous le dis parce qu'en nous, tous ici, y compris les adultes, il y a des pulsions de mort. On parle beaucoup de des pulsions sexuelles, c'est vrai, mais n'oubliez pas ces pulsions de mort. Et seul le Christ, dans son mystère de salut, peut le sauver de ces pulsions de mort. Parce qu'il ne veut pas la mort de l'homme. Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Dieu veut qu'il vive, et qu'il vive éternellement. Tu voulais me poser une question? Alors, je répète ce qu'il dit, pour que tout le monde l'entende. Il dit, Saint François d'Assise dit, la mort, c'est notre sœur. C'est vrai, hein? C'est une très très belle remarque de Saint François d'Assise. Pour bien montrer que la mort, c'est pas la fin de tout, mais c'est une sœur dans le sens où elle va mourir, elle va me tenir la main pour me permettre de vivre avec Dieu éternellement. Et tous les saints avaient grande conscience que leur vie sur terre, c'était un instant par rapport à cette éternité. Il y a cette très belle phrase de Thérèse de l'enfant Jésus. Vous connaissez Sainte Thérèse de l'enfant Jésus? Vous avez entendu parler? Elle dit, ma vie, c'est un instant entre deux éternités. L'éternité de Dieu qui m'a créé et qui m'aime, et l'éternité de Dieu qui va me recevoir pour la vie éternelle. Si bien que de réfléchir à l'au-delà de la mort, eh bien nous exige de nous une réflexion sur l'au-dedans. Parce que tout ça c'est déjà en nous. Le ciel, l'enfer et le purgatoire sont déjà en nous. Parce que tout cela dépend du choix que je fais. Je peux choisir aujourd'hui la mort. C'est à notre portée. Chacun de nous a la liberté de pouvoir choisir la mort. C'est ce qu'on appelle la voie du diable. C'est celui qui suit, qui ne veut, qui est. Jésus dit qu'il est homicide. C'est celui qui choisit la mort. Mais vous voyez, ce n'est pas forcément dans les grands choix, je vous parlais du suicide, ça peut être dans un choix tout simplement. Quand nous succombons, quand nous tombons dans la tentation, nous choisissons la mort. Même si ça ne nous fait pas mourir, au sens physique du terme, mais nous choisissons la mort. Quand je choisis la haine, quand je choisis de faire n'importe quoi avec mon corps, ou avec le corps de mon prochain, je choisis la mort. Quand je choisis de voler, quand je choisis de tricher, parce que c'est plus facile. Quand je choisis de ne pas être vrai, c'est un choix de mort. Et vous voyez, c'est très important d'avoir conscience, c'est que ce sont ces petits choix-là qui vont entraîner les grands choix de notre vie. Et si c'est vrai dans le mal, c'est encore plus vrai dans le bien. C'est le fait que je vais choisir là de ne pas d'offrir un pardon, que c'est là où je vais offrir le fait de ne pas tomber en tentation. Oh, par exemple, je vais aller prier, je vais m'amuser, je vais aller à la messe, j'ai beaucoup d'autres choses à faire le dimanche matin par exemple, vous voyez, je vais dormir, voilà. Et tout ça, ce sont des choix que je pose, mais quand je fais des choix bons, ces petits choix m'aideront un jour, cette fidélité à Dieu en fait, qui frappe à ma porte, bien, cette fidélité m'aide, y compris à grandir dans les chemins de Dieu. Vous savez, je dis souvent qu'on a en nous les organes du bonheur. Mais si on ne s'entraîne pas ici-bas à faire un peu comme les sportifs, c'est-à-dire à faire des mouvements, à faire de la musculation, on va arriver atrophié, incapable, dans notre vie éternelle après notre mort, hein, on sera incapable bien d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est pas très clair le fait qu'après cette vie, nous continuions de vivre? Oui? C'est toi qui c'est pas évident. Redis-moi ça. Qu'est-ce qui te paraît? Vaut mieux, c'est mieux, tu peux essayer de le dire.
Ça me semble étrange que puisse vivre après. Enfin, il n'y a aucune preuve matérielle qu'on en vit après le mort.
Alors, c'est important. Aucune preuve matérielle. Est-ce que tu peux me dire, toi, comment tu fais pour respirer? Comment tu fais pour respirer? Comment? C'est un réflexe, mais c'est parce que tu crois que tu as des poumons. Sinon, tu ne pourrais pas respirer. Mais est-ce que tu as vu des poumons? Ah oui, il y a la radio. Mais c'est pas toi directement, tu ne les vois pas au sens où tu t'es pas ouvert. T'en as une expérience à travers quelqu'un d'autre. Alors c'est une image que je donne. Et c'est pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses à laquelle nous croyons et que nous n'avons jamais vues. Un peu comme le jumeau tout à l'heure qui dit, mais ah bon, j'ai une mère? Qu'est-ce que j'en sais que j'ai une mère, j'ai jamais vue? Ben, je la vois pas, mais il y a beaucoup de signes dans ma vie qui me rappellent cela. Récemment, j'ai reçu une jeune femme de 22 ans, une jeune fille de 22 ans. Ses parents étaient divorcés, donc elle allait très souvent chez sa mamie, elle avait une relation très forte avec sa grand-mère. Et elle est venue, sa grand-mère a été hospitalisée. Donc elle est partie l'accompagner, et puis le soir, après les cours, elle allait voir sa mamie à l'hôpital. Tous les soirs, elle lui donnait la main. Et elle me disait, il y avait une très grande complicité entre elle et moi. Jusqu'au soir, où c'était quand même un cadeau, cette grand-mère s'est éteinte alors qu'elle lui tenait la main. Et elle me disait, je ne sais pas si Dieu existe, parce que moi je n'ai pas eu de formation pour ça, mais ce que je sais, c'est que l'amour que ma grand-mère m'a donné, c'est pas possible que 10 secondes après qu'elle soit morte, sa mort n'existe plus. Elle avait comme donc intuit, c'est une intuition, que l'amour ne peut pas mourir. Et vous savez, c'est une intuition qui est très forte, parce qu'elle n'est pas que dans le cœur de cette jeune fille, elle est dans le cœur de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas faire mourir l'amour. Et c'est au cœur de notre foi aussi, qui dit que l'amour, seul l'amour, est plus fort que la mort. La mort prend tout, sauf l'amour. Celui qui aime, comme Dieu veut que nous aimions, a déjà vaincu la mort. Alors ce ne sont pas des preuves, comme tu le dis, matérielles, parce que justement, on ne parle pas d'une réalité matérielle. Or, nous sommes très matérialistes, en fait. Or, il y a beaucoup de choses en toi qui ne sont pas matérielles. Alors, ta pensée en ce moment, ce n'est pas matériel. Or, tout le monde ici croit que tu penses, que tu as une pensée. Et pourtant, il y en a qui disent choses à prouver, mais non, ça c'est pour toi. On est sûr qu'ils pensent. Qui pense bien ou qui pense pas, c'est son problème, mais on est sûr qu'ils pensent. Et bien c'est pareil pour vous. Vous avez en vous une vie intérieure. Vous avez des sentiments. Vous avez une pensée. Et ça, personne ne peut vous la. Vous avez le droit de penser du bien, vous avez le droit de penser du mal. Le Seigneur, quand il nous donne son évangile, il nous dit le chemin de la vie. Et ce chemin de la vie, c'est un chemin qui est difficile, hein, je reconnais, parce que on préférait parfois choisir le chemin du mal. Pourquoi? On a envie de tomber du mauvais côté. Et c'est pour ça qu'il nous dit, veillez, soyez vigilants. Faites attention. Parce que c'est dès maintenant, vous l'entendez bien ça? C'est dès maintenant que nous choisissons notre éternité. Et c'est pour cela qu'il y a un sacrement, qui est le sacrement du pardon, dans lequel je peux aussi demander pardon à Dieu et recevoir de Dieu son pardon, parce que j'ai choisi un chemin qui n'était pas le chemin de la vie, qui était un chemin de mort. Un chemin qui nous détruit de Dieu. nous enlève de vie.
Oui,
nous choisissons dès maintenant le fraternité. Ça, vous pouvez le décrire. Nous choisissons dès maintenant notre éternité. Parce que l'au-delà dont on parle est d'abord un au-dedans. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est comme ça. Je n'ai pas confiance en toi. Donc, je choisis un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Alors, je vous invite pendant votre retraite, vous m'entendez ? Pendant votre retraite, je vous invite à véritablement vous mettre face chacun personnellement, et ça, c'est une chose que vous devez faire seul, ne pas le faire ensemble, c'est de vous mettre devant ce choix. Je te mets le choix de la vie, je mets devant toi le choix de la mort, choisis la vie, c'est ce que dit l'Évangile, toi, que choisis-tu ? Et vous voyez, ça rentre dans tous nos actes, les plus petits soient-ils, mais aussi les plus grands sont-ils. Et des fois, on propose des actes importants dans une vie. Alors maintenant que je vous ai dit ça, je passe à une autre étape, une autre étape. Je vous ai parlé du sens, je vous ai parlé du choix. Maintenant, je vais vous parler d'un autre mot, c'est le troisième mot de ce soir. Quel sens a ma vie et quel choix je veux poser ? Oui, je m'adresse à vous un peu comme à les adultes, là. Hein, parce que ces questions-là, c'est quand même des questions qui sont lourdes de conséquences dans une vie humaine. Hein. Je vais vous poser une autre question. Quel est le sens ? Quel est le choix ? Et maintenant, je vous pose une autre question qui est fondamentale pour moi. Quelle relation je veux vivre ? Quelle relation j'ai personnelle avec Dieu, d'abord ? Si je suis créé pour voir Dieu, si j'ai été créé seulement par amour et en vue de Dieu, quelle relation aujourd'hui j'ai avec Dieu ? Est-ce que je traite Dieu comme un... Vous savez, un distributeur automatique, je mets une pièce puis j'obtiens ce que je veux. Donc en fait, je vais faire fléchir Dieu à ma propre volonté. Ou est-ce que j'ai une relation avec Dieu qui est une relation de fils ou de fille de Dieu ? Une relation gratuite. Une relation d'amour. Est-ce que je vais utiliser Dieu à mes propres fins ? Ou est-ce que je vais essayer de rentrer dans une relation qui est celle du fils et de la fille par rapport à son père, c'est-à-dire une relation d'amour avec Dieu. Est-ce que je suis dans une relation utilitaire, je vais me servir de Dieu, ou il y a un autre danger, est-ce que je ne suis pas indifférent à Dieu ? Vous voyez, c'est important cette question de la relation. Quelle relation j'ai avec lui ? Par exemple, je vous pose une question, je pense que vous priez tous plus ou moins. Quand vous priez, pour vous, qui priez-vous ? Quelle est l'image que vous avez de Dieu ? Est-ce ce Dieu-là ? Qui est Père, Fils et Esprit Saint ? Qui est relation d'amour ? Est-ce un Dieu créateur ? Est-ce Jésus ? Mais Jésus, c'est qui pour vous ? C'est un prêtre ? C'est le Sauveur ? C'est le Fils de Dieu, c'est votre ami, c'est votre frère. Qui est Jésus pour vous ? Et creusez cela dans votre vie, dans votre vie spirituelle. Parce que au ciel, les saints, nos défunts au ciel, vivent une relation parfaite avec Dieu. Parce qu'ils sont parfaitement eux-mêmes dans l'amour de Dieu. Le ciel, c'est pas une dissolution, c'est pas je vais m'enfouir dans un grand tout
qui sera Dieu.
C'est pas ça du tout le ciel. Hein. Ça, c'est l'hindouisme. Si, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous voyez un petit peu ce que je vais vous dire ou pas ? Quelle relation j'ai avec l'Esprit Saint ? Est-ce que tous les jours, je prie l'Esprit Saint ? Vous devriez noter tout ça. Quelle relation j'ai avec Dieu, mon Père ? Est-ce que j'ai une relation d'utilité? C'est le ciel qui commence aujourd'hui, ça. Hein? Le ciel sur la terre, c'est ça. C'est une relation avec Dieu qui est une relation véritable, en vérité. Jésus nous dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas des esclaves de Dieu. Nous ne sommes pas des marionnettes dans les plans de Dieu. Nous sommes des êtres appelés à la liberté. Et donc nous sommes aimés, et chacun et chacune de nous est aimé infiniment par Dieu. Il faut entrer dans ce mystère de la relation, parce que c'est un mystère. Il faut le découvrir. Alors notez-le, enfin, en fait, moi, avec moi, voilà, vous êtes en quelle classe, vous êtes en 3e. Père Paul parle comme si vous étiez, soit on est en 3e, et nous, la relation avec Dieu. D'abord, je vous le dis parce que j'ai été en 3e, et j'aurais aimé qu'on me parle de cette relation avec Dieu un peu plus tôt. Parce qu'en fait, on perd beaucoup de temps dans sa vie de chrétien, parce qu'on ne sait pas qui est Dieu vraiment pour moi. Et l'enjeu de la vie éternelle, c'est de savoir qui est Dieu dès maintenant. Alors creusez ça, hein. Ne passez pas trop vite. C'est une question essentielle. Ne soyez pas trop superficiel dans votre relation avec lui. Lisez l'Évangile. Creusez cette relation avec Dieu. Cherchez Dieu. Ah oui, on ne cherche pas suffisamment Dieu. Parce que Dieu nous respecte tellement qu'il se fait discret avec nous. Il ne veut pas s'imposer. Vous savez que Dieu n'aime pas du tout les personnes orgueilleuses, parce qu'il est très humble. L'amour et l'humilité se conjuguent. Hein? Alors creusez cela. Quelle relation j'ai avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est important. Hein? Vous qui vous préparez à la confirmation, bah, quelle relation j'ai personnelle avec lui? Est-ce que je le prie? Voilà. Deuxième chose dans la relation, quelle relation, attention c'est plus compliqué là, ça va paraître plus simple mais c'est plus compliqué, quelle relation j'ai avec moi-même? Alors c'est très important pour vous,
parce que vous cherchez un peu votre identité, en troisième, je cherche.
Il n'y a pas qu'en troisième, hein, beaucoup plus tard encore, on se cherche. Alors, quelle relation j'ai avec moi-même? Est-ce que je suis en vérité avec moi-même? Est-ce que je ne me raconte pas des films? Est-ce que je ne vis pas dans l'imaginaire avec moi-même? Si j'étais telle femme, telle fille, si j'étais tel garçon, est-ce que vous êtes dans une relation de vérité? À ma mort, le Seigneur nous dit une chose, la révélation nous dit une chose, c'est que je serai jugé en vérité. C'est-à-dire que tous les masques que j'ai, les faux semblants, tous les jeux que j'ai joués, ça va tomber. Je serai mis, l'Évangile nous dit, je serai à nu, à découvert. Je serai en vérité devant Dieu. C'est ça le jugement qu'on appelle le jugement particulier à la mort, et le jugement dernier à la fin de notre vie. Nous serons mis devant ce que nous sommes. Alors, est-ce que j'ai une relation en vérité avec moi-même? Pour cela, ça implique une question qui est la même. Est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que j'ai une image de moi-même qui est belle? Ou est-ce que j'ai une image qui est blessée de moi? Est-ce que j'ai une image qui est pesante de moi? J'ai du mal à m'aimer, j'ai du mal à m'accepter. Posez-vous cette question en vérité dans cette retraite. Quelle relation j'ai avec moi-même? Et puis posez-vous la question, quel est le regard de Dieu sur moi? Comment Dieu vous voit? Qu'est-ce que Dieu regarde en vous? La vérité de votre relation avec vous-même. Ça va ça? Vous avez noté? La relation avec moi-même? Enfin maintenant, et c'est toujours le mot relation, quelle relation j'ai avec les autres? Dans le langage chrétien technique, on appelle ça la communion des saints. La communion des saints. La communion des saints, vous savez, on dit ça à la fin du credo, je crois à la communion des saints. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, en Dieu, tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu, bien, vivront une communion parfaite, parce qu'ils seront parfaitement eux-mêmes en Dieu. Et que c'est les saints du ciel, y compris les défunts, ceux qu'on appelle les âmes du purgatoire, ceux qui sont en train de se purifier, et nous, sur terre, nous vivons dans une communion dans la communion du corps du Christ, les uns avec les autres. Alors l'idée, c'est de savoir quelle relation j'ai avec les autres. Par exemple, regardez dans votre retraite, c'est très important dans une retraite de confirmation, quelle est la relation que j'ai avec mes amis. Alors ça peut être aussi une question, j'ai pas d'amis. Très bien. Ça peut être ça aussi. Mais si c'est vrai, pose-toi la question, ça peut être vrai. C'est compliqué les amis, hein. Je crois que c'est un grand, grand cadeau. Un grand cadeau de Dieu. Parce qu'il y a des amitiés qui nous élèvent. Il y a des amitiés qui nous aident à tenir dans la vie. Il y a des amitiés qui nous empêchent de perdre du temps. Il y a des amitiés qui nous empêchent de nous décourager. Il y a des amitiés qui nous donnent de la joie. Il y a des amitiés qui nous mettent en route. Il y a des amitiés qui nous tirent par le haut dans la vie. Et c'est vrai d'ailleurs, dans une relation garçon-fille, ça, hein, il y a des amitiés qui nous grandissent. Mais méfiez-vous aussi, parce que si c'est vrai cela, il peut y avoir aussi des amitiés, et dans ces cas-là, c'est plus une amitié d'ailleurs pour moi, qui ne nous aident pas. Des amitiés, ben, des, disons des relations qui nous... Dans le psaume numéro 1, il est dit « Fuyez la relation avec celui qui est impie. » L'impie, c'est le mauvais. « Fuyez la relation avec l'impie. » Eh bien, vous-même, vous savez, vous n'avez pas choisi votre famille, ni vous ni moi. Mais par contre, nos amis, nous avons le droit de les choisir. Nous n'avons pas choisi nos frères et sœurs, nous n'avons pas choisi nos parents, on les reçoit, mais nos amis, il faut les choisir. Eh bien, dans votre retraite de confirmation, je vous invite à réfléchir qui sont vos amis. Eh oui, c'est important. Et quelle est la relation que j'ai profonde avec eux? Regardez, par exemple, notre mère, la Vierge Marie. Regardez la qualité de relation que Marie, la Vierge Marie, a avec Jésus, mais aussi avec Élisabeth, avec les autres. La qualité de la relation. Vous savez qu'on l'appelle la Vierge Marie. On dit que Marie, elle est vierge. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle seulement. Ça, c'est très matériel. Quand on dit que Marie, elle est vierge, ça veut dire que la relation qu'elle avait avec les autres était une relation d'amitié profonde. Et une relation d'amitié, ce n'est pas celui qui veut prendre sur l'autre. Vous voyez ? Il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que... Vous ne connaissez pas ? Oui, mais je vais vous en donner un. Il y a un proverbe arabe qui dit... Le proverbe arabe dit que quand un bébé naît, il naît avec les poings fermés. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, il y a des mamans qui ont accouché ici. Moi, j'ai jamais assisté à un accouchement. Alors, les bébés naissent, dit le proverbe arabe, avec les poings fermés, ça c'est un fait universel. C'est vrai, papa? Le proverbe arabe dit toute la vie t'est donnée pour faire ça. Quand? Je ne connais pas. Toute la vie nous est donnée pour faire ça. Regardez combien autour de nous les gens sont comme ça. Voyez? Oui, c'est les grilles, c'est surtout la part. Bien, l'avarice. Et puis c'est aussi, j'aime l'autre, donc je le prends. Et c'est pas respectueux de l'autre. Alors je vous invite dans votre retraite de confirmation, à la lumière de la communion des saints, ceux qui ont une relation juste et chaste avec nous, de vous poser la question, est-ce que moi aussi, j'ai une relation qui est juste, chaste, c'est-à-dire pure, avec les autres? Comment? Les garçons, les filles, vous pouvez fermer vos oreilles?
Oui,
Les filles, vous avez les oreilles, s'il vous plaît. Les oreilles, les filles, je parle aux garçons seulement. Vous êtes... Non, je vérifie qu'ils écoutent. Je parle aux garçons, s'il te plaît. Alors, vous écoutez pas, j'en entends une. Les garçons, comment? Écoutez-moi, les garçons. Comment? C'est pas grave, c'est pas grave. Vous m'écoutez. Comment vous regardez les femmes? Maintenant, les garçons, fermez les yeux. Fermez les oreilles. Les garçons, si vous avez les oreilles, c'est bon? Les filles, je vous parle. Vous savez ça veut, ce que ça veut dire, séduire? Vous savez ce que ça veut dire, séduire? Non, je parle aux filles, garçons, n'écoutez pas. Séduire, ça veut dire conduire à soi. Vous voyez comment nos relations les uns avec les autres, garçons, filles ou entre amis, c'est un sujet qui est d'actualité et surtout c'est un sujet qui est important pour nous. Dis-moi comment tu regardes quelqu'un, je te dirai qui tu es. Dis-moi quel regard tu poses sur l'autre, je te dirai qui tu es. Vous savez que le regard c'est important, hein? La qualité du regard me dit la qualité de mon âme, de ma vie intérieure. Et oui, les yeux sont la fenêtre de l'âme, on dit bien. C'est très important. C'est aussi la fenêtre de mon cœur. Et c'est pour ça que nous disions tout à l'heure que j'ai été créé pour voir Dieu. Il faut que mes yeux... Je les habitue à regarder la beauté. Or, le problème, que ce soit sur les films, que ce soit sur Internet, que ce soit tout ça, on n'utilise pas toujours ses yeux pour la beauté. Et parfois, on vient salir son imagination, salir son cœur, avec des images qui ne sont pas faites pour nous. Dans la béatitude, Jésus nous dit « Bienheureux ceux qui auront un cœur pur, ils verront Dieu. » Le problème, c'est qu'on n'est pas pur. On le devient par la grâce de Dieu. On a besoin de Dieu pour être pur. Alors, je vous invite à réfléchir sur le sens de notre vie, avec les trois mots. Quel but? C'est quoi le but de la vie? Posez-vous la question déjà. J'aimerais savoir en troisième, quel est le but de votre vie? Quel est le but? Quelle est la signification de cette vie? Et quel est le goût, la sensation, quel est le goût que je donnais à la vie? Ensuite, je vous ai parlé du choix. Mes choix d'ici-bas orientent et même conditionnent mon éternité avec Dieu. Mes choix d'ici-bas orientent et conditionnent mon éternité avec Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas faire n'importe quoi, ni moi-même, ni les autres. Parce qu'un jour, j'aurai à rendre compte devant Dieu de ce que je suis et de ce que j'ai fait. Jésus dit une parole très forte dans l'évangile, hein. Vous êtes un peu fatigué, hein, cette journée. Jésus nous dit que nous aurons à rendre compte de toutes les paroles inutiles que nous avons prononcées. Alors on se dit, d'ailleurs, c'est que nous aurons à rendre compte de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait de notre vie. Et puis ensuite, je vous ai parlé de la relation. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans une vie relationnelle, une vie de communion avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Vous notez ça? Ça me donne un petit canevas pour réfléchir. Quel sens, quel choix, quelle relation? Eh bien, vous relisez ça à la lumière de votre foi, et en particulier à la lumière du Christ, mort et ressuscité. Vous allez voir quel est le sens de ma vie, Vous allez voir quelle est l'importance du choix de ma vie. Vous avez remarqué que dans l'évangile, Jésus dit toujours aux pauvres, aux malades, aux jeunes hommes riches, si tu veux. Jésus s'adresse toujours à une liberté. Il n'impose jamais rien. Il respecte trop cette liberté qu'il a mise en nous. Et enfin, quelle est la relation en vérité que j'ai avec Dieu, que j'ai avec moi-même et que j'ai avec les autres. Dans la relation avec les autres, il y a un mot qui est important pour nous en tant que chrétiens, c'est la charité. Je ne dis pas l'amour parce que le mot amour est un peu galvaudé aujourd'hui. Mais dites la charité. Alors, je finis là-dessus pour vous laisser un peu de temps avant le repas. Parce que la charité, c'est ce qui demeurera dans la vie éternelle. La foi, elle passera. L'espérance, on n'en aura plus besoin. Mais la charité, elle demeurera. Alors, quelle est la charité? C'est-à-dire, est-ce que je suis ouvert aux autres? Est-ce que je suis généreux avec les autres? Est-ce que ce qui me préoccupe, c'est mon nombril, mon petit moi? Ou est-ce que je suis préoccupé des autres? Vous pouvez noter ça? Quel est l'amour que j'ai véritablement pour les autres? Essayez de réfléchir un peu à tout ça. Alors, j'ai conscience que je suis exigeant, parce que je demande beaucoup de choses pour réfléchir. Mais essayez d'en prendre un peu. Et surtout de voir le lien avec ce qu'on appelle dans l'Église l'au-delà. Parce qu'en fait, je parle beaucoup d'un ici-bas, moi. C'est parce que dès ici-bas, nous constituons notre visage d'éternité. Ça va? Avez-vous des questions sur l'au-delà, peut-être? Il y en a peut-être pas. Vous êtes chrétien, catholique, et croire à la réincarnation. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que pour vous, c'est conciliable, les deux? Non? Qu'est-ce qui dirait oui? Je pense que vous avez été bien formé. Je félicite les catéchistes au passage. Parce que de fait, ce n'est pas conciliable les deux. Hein, ça vous le savez. Une autre question. Est-ce qu'on peut communiquer avec nos défunts? Par la prière. D'accord. Vous avez bien compris ça? On ne cherche pas à entrer en communication avec nos défunts, mais nous communions avec eux par la prière. C'est bien clair pour tout le monde? Voilà.